Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette édition du Monde aujourd'hui de ce lundi 12 août 2024. Nanit Talani au micro. Au Nigeria, 16 personnes portées disparues dans le naufrage d'une embarcation surchargée dans l'état de Sokoto. En Tanzanie, arrestation de plusieurs dirigeants de l'opposition avant une manifestation prévue ce lundi. Au Kenya, ouverture du procès du pasteur Paul Mackenzie et ses adeptes, accusés d'avoir incité des fidèles à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Au Sénégal, les patrons de presse appellent à une journée sans presse pour dénoncer les pressions du pouvoir. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni appellent à une trêve sans délai dans la bande de Gaza. Concours de la fonction publique au Burkina Faso, 2 millions de candidats pour 5000 postes à pourvoir. À suivre dans nos dossiers du jour. Et puis côté sport, nous reviendrons sur les résultats des athlètes africains qui ont surpassé leurs performances précédentes au JO à Paris. Mais tout d'abord, le journal. 16 personnes sont portées disparues dans le nord du Nigeria à la suite du naufrage de leur embarcation surchargée. Les précisions de John Lindon.
Des agriculteurs du village de Dundé, dans l'état de Sokoto, se rendaient dans leur rizière dimanche matin quand leur embarcation a chaviré, a indiqué lundi l'Agence nationale des secours, la NEMA, qui a dénombré 36 passagers à bord. 19 personnes ont survécu, un cadavre a été retiré de la rivière et 16 personnes, hommes, femmes et enfants, sont toujours portées disparues, a précisé la NEMA. Cela fait presque un jour que l'accident s'est produit et on pense que toutes les personnes qui n'ont pas encore été retrouvées sont mortes. L'objectif est de récupérer les corps dans la rivière, a déclaré le responsable régional de la NEMA. Une trentaine de plongeurs et des pêcheurs ont participé aux recherches. Selon les autorités, cet accident est dû à une surcharge de la pirogue censée transporter 15 passagers et qui était chargée bien au-delà de sa capacité.
Au Sénégal, les patrons des médias appellent à une journée sans presse demain mardi pour alerter sur les difficultés dans leur secteur qui vit, selon eux, une des phases les plus sombres de son histoire, plus de 4 mois après l'arrivée au pouvoir des nouvelles autorités. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les journaux ne vont pas paraître, il n'y aura pas d'émissions de radio et de télévision. Les sites d'information appartenant à des entreprises de presse ne vont pas diffuser, a affirmé Mamadou Ibrakan, le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse au Sénégal. Le CEDEPS met en cause les autorités pour le blocage des comptes bancaires des entreprises de presse pour non-paiement d'impôts, la saisie de leur matériel de production, la rupture unilatérale des contrats publicitaires et le gel des paiements dus aux médias. L'éditeur de deux quotidiens sportifs, Stade et Sunulamb, a suspendu fin juillet leur parution après plus de 20 ans de présence dans l'espace médiatique. Le Premier ministre Ousmane Sonko a dénoncé fin juin les détournements de fonds publics auxquels se livraient, selon lui, certains patrons de presse qui ne versent pas leurs cotisations sociales. On ne va plus permettre que des médias écrivent ce qu'ils veulent sur des personnes au nom d'une soi-disant liberté de la presse sans aucune source fiable, avait déclaré M. Sonko devant les jeunes de son parti à Dakar, des propos que la profession avait jugés menaçants.
Arrestation de plusieurs dirigeants de l'opposition tanzanienne, dont le chef du parti Chadema, Freedom Mbowe, et son adjoint Tundu Lissou. L'opposition avait prévu une manifestation ce lundi, davantage avec Alexandrine Holognon.
La police a interdit le rassemblement en invoquant des risques de manifestations violentes. Le parti Chadema avait déclaré qu'environ 10 000 jeunes devaient se réunir aujourd'hui à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, sous le slogan « Prenez en charge votre avenir ». Environ 500 jeunes sympathisants ont également été interpellés par la police alors qu'ils se rendaient au rassemblement avant d'être reconduits chez eux. Le chef de Chadema, Freeman Mbowe, aux côtés de John Pambalu, membre du mouvement de la jeunesse, ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Songwe, dans le sud-ouest du pays. Hier, Tundu Lissou, John Nika, secrétaire général du parti, et Joseph Mbilini, un chanteur populaire, ont été appréhendés dans la ville de Mbeya, dans le sud-ouest du pays. Avant d'être appréhendé, Freeman Mbowe avait fermement condamné les arrestations et exigé la libération des personnes arrêtées.
Au Kenya, ouverture du procès du pasteur Paul Mackenzie, accusé d'avoir incité ses fidèles à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Monsieur Mackenzie et ses adeptes sont jugés pour homicide involontaire, terrorisme et meurtre après la mort de plus de 440 adeptes dans ce qui a été baptisé le massacre de Chakalaouma. Des dizaines de personnes inculpées avaient plaidé non coupables en janvier. M. Mackenzie a comparu devant le tribunal de la ville portuaire de Mombasa avec plus de 90 autres suspects, dont sa femme. Le procès doit durer jusqu'à jeudi. En Ouganda, au moins 23 personnes ont été tuées dans l'effondrement samedi d'une vaste décharge dans la capitale Kampala, alors que les recherches se poursuivent. Selon les médias locaux, des maisons, des personnes et des animaux domestiques ont été engloutis sous des montagnes de déchets à la suite de cet éboulement provoqué par de fortes pluies. Au moins 1000 personnes ont été déplacées. La décharge accueille la quasi-totalité des déchets collectés à Kampala. Au Soudan, les États-Unis veulent lancer cette semaine en Suisse les discussions sur le Soudan, même en l'absence de représentants du gouvernement soudanais qui émet de sérieuses réserves sur l'approche américaine concernant ces pourparlers. Nous avons eu des échanges approfondis avec les forces armées soudanaises, mais ils ne nous ont pas encore donné de confirmation concernant leur venue le 14 août en Suisse, mais nous irons de l'avant avec cet événement. Et cela a été clairement indiqué aux parties, a déclaré l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Tom Perriello, en conférence de presse. De leur côté, les FSR ont donné leur accord inconditionnel sur leur participation, a-t-il dit.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les appels à une trêve à Gaza se multiplient après plus de 10 mois de guerre entre Israël et le Hamas. Pendant ce temps, l'armée poursuit son offensive, notamment dans des régions où elle fait face à une résurgence du Hamas et de groupes alliés. Mohamedou Oumfa nous en dit plus.
La pression internationale s'accentue. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont affirmé qu'il ne peut plus y avoir aucun délai supplémentaire pour négocier un cessez-le-feu dans le territoire assiégé. Les combats doivent cesser tout de suite, ont affirmé les dirigeants de ces trois pays dans une déclaration commune, appelant également à la libération des otages emmenés dans le territoire palestinien le 7 octobre. Ces déclarations font suite à la demande dimanche du Hamas d'appliquer le plan en trois phases, présenté fin mai par le président américain Joe Biden pour un cessez-le-feu à Gaza, plutôt que de mener plus de négociations ou d'amener de nouvelles propositions. Dans la bande de Gaza, ce lundi, l'armée israélienne poursuit son offensive, notamment dans les régions qu'elle avait affirmé contrôler, mais où elle fait face à une résurgence du Hamas et de ses groupes alliés. Des bombardements aériens ont visé Khan Younes et Rafah dans le sud, selon des habitants. La branche armée du djihad islamique a assuré combattre les soldats à Khan Younes.
Vladimir Poutine promet de tout faire pour expulser les forces ukrainiennes de la région russe de Koursk, théâtre depuis le 6 août d'une incursion d'ampleur qui a permis aux troupes de Kiev de prendre le contrôle de 28 localités, selon Moscou, poussant plus de 120 000 civils au départ. Après des mois de recul face aux soldats russes sur son front est, l'Ukraine a lancé le 6 août la plus grande attaque transfrontalière contre la Russie depuis le début de l'assaut russe en février 2022. Les États-Unis ont averti ce lundi l'Iran que l'Iran devait s'attendre à d'importantes conséquences s'il décidait de fournir des centaines de missiles balistiques à la Russie. Nous sommes prêts à apporter une réponse rapide et forte si l'Iran venait à s'engager dans le transfert des missiles balistiques, ce qui constituerait, selon nous, une grave escalade au soutien de l'Iran envers la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine, a déclaré à la presse Vedant Patel, un porte-parole du département d'État. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Jeux olympiques de Paris, donc ils ont pris fin hier dimanche. L'Afrique a remporté 39 médailles, remportant un nombre record de médailles et confirmant ainsi sa montée en puissance sur la scène sportive mondiale. Parmi les nouvelles étoiles africaines des JO, le Botswanais Leslie Sebogo et l'Algérienne Kehlani Moore. Pour en savoir plus, nous invitons Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Nanit. Le Stade de France a été le théâtre d'un grand spectacle réunissant les nations du monde entier.
célébrant un moment d'unité mondiale. Le nageur Léon Marchand, seul athlète à avoir décroché 4 titres lors de ces Jeux, a symboliquement éteint la vasque olympique dans les jardins des Tuileries au cœur de Paris. Après la transmission du drapeau olympique entre les maires de Paris, Anne Hidalgo, et de Los Angeles, Karen Bass, l'acteur Tom Cruise, connu pour ses missions impossibles, a symboliquement passé le relais entre Paris 2024 et Los Angeles 2028. Les organisateurs ont orchestré un moment spectaculaire. Tom Cruise a fait une entrée sensationnelle en descendant un rappel depuis le toit du Stade de France. Paris a vibré avec la présence de plus de 10 000 athlètes, 45 disciplines sportives et 200 pays représentés. Les États-Unis et la Chine ont terminé les Jeux avec un score égal de 40 médailles d'or chacun. Au classement général des médailles, les États-Unis dominent avec un total de 126 médailles, tandis que la Chine en compte 91. La France, pays hôte des Jeux Olympiques, a battu son précédent record de 43 médailles en établissant un nouveau record avec 64 médailles. Au total, dont 16 en or. Par ailleurs, l'Afrique a brillé aux Jeux Olympiques cette année, surpassant ses performances précédentes. Suivez l'analyse de Tarsis Alelimana, journaliste olympique indépendant basé à Ottawa, au Canada.
On a 13 médailles d'or par rapport à 11 récoltées donc à Tokyo. Et le Kenya progresse. Eh bien, on part de la 19e place à la 17e place pour le Kenya. On voit aussi qu'il y a une progression et surtout un réveil des Sud-Africains qui occupent la 3e place. Et ensuite, un pays comme l'Algérie progresse. Il est en 2e position au niveau du classement africain. Donc l'Afrique progresse.
Que peut-on retenir d'autre sur
l'Afrique? Perd un tout petit peu dans les courses de fond et de demi-fond, et ça s'explique parce qu'en fait l'Europe, l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, eh bien, on mène des athlètes d'origine africaine, et c'est normal que ces plateaux, ou plutôt ces podiums, soient occupés aussi par les autres. Mais on sent aussi une bonne progression de l'Afrique, notamment avec l'Afrique australe, la montée du Botswana qui perturbe l'ordre, finalement, le temple du sprint américain, avec une équipe aussi de la Zambie qui progresse. Il y a une sorte de progression. Une course de progression au niveau des courses de sprint et puis la découverte aussi d'autres sports. Quand on voit que l'Algérie, par l'intermédiaire d'une gymnaste, décroche l'or, quand on voit aussi que dans des domaines aussi compliqués comme le patato moderne, l'Égypte obtient l'or, ça c'est quand même une bonne chose pour l'Afrique.
Tarsis Harerimana, journaliste olympique indépendant basé à Ottawa, au Canada. Les Jeux olympiques resteront gravés dans les mémoires grâce à de nombreuses performances exceptionnelles. Des stars comme Cathy Ledecky, qui a remporté une nouvelle médaille d'or sur 1500 mètres en natation, et Simone Biles, avec ses 3 médailles d'or en gymnastique, portant son total à 7, ont brillé. Le perchiste Arma Duplantis a encore été couronné à Paris après Tokyo avec un nouveau record du monde à 6,25 m. Le français Léon Marchand a suscité une véritable hystérie, 4 médailles d'or gagnées en natation. L'Algérienne Kélia Nemour a marqué l'histoire en devenant à seulement 17 ans la première gymnaste africaine à décrocher une médaille d'or aux barres asymétriques. Le jeune athlète botswanais Letsile Tebogo a remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques sur 200 mètres, devenant ainsi le premier Africain à décrocher ce titre dans cette épreuve. À 42 ans, l'Américaine Diana Taurasi décroche sa 6e médaille d'or, établissant un record inégalé dans tous les sports collectifs. Et le joueur de tennis, le Serbe Djokovic, a gagné sa médaille d'or qui manquait donc sur son palmarès. Enfin, après 20 ans de domination jamaïcaine par Usain Bolt, le sprinter américain Noah Lyle a retrouvé la victoire sur 100 mètres, inscrivant ainsi l'Amérique sur cette épreuve.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Nanit Salani, toujours en votre compagnie. Restez à l'écoute pour notre segment magazine. Au Burkina Faso, c'est parti depuis ce week-end pour les concours directs d'entrée à la fonction publique session de 2024. Plus de 2 millions de candidats pour plus de 5100 postes à pourvoir, c'est inédit, avec moins de 1% de chances d'être admis. Le gouvernement assure la transparence et les candidats affichent la sérénité. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Samedi 10 août, au lycée Wizin Koulibaly à Bobo Dioulasso, près de 400 km de la capitale, le ministre de la fonction publique lance la composition sur table des concours directs. Et c'est l'ensemble des 13 régions du pays qui composent en simultané. Il n'y a que 5111 postes pour un peu plus de 2 millions de candidatures. Le gouvernement rassure, toutes les dispositions sont prises pour l'égalité de chances entre tous les candidats. Bassolma Bazier, ministre de la fonction publique.
Si nous ne voulons pas qu'un fonctionnaire soit lâche, qu'il soit incompétent ou qu'il soit un traître, ça dépend des conditions dans lesquelles nous l'avons recruté et les conditions que nous avons réunies pour sa formation afin qu'il soit un véritable patriote. Voilà pourquoi il faut mettre l'accent sur la qualité du recrutement. Je vous invite à la sérénité parce que nous créons toutes les conditions nécessaires pour que tous les enfants soient mis dans les mêmes conditions.
Les candidats se disent rassurés par les propos du ministre, Bénédicte Milogo.
Je suis sereine, je suis bien préparée, donc je me dis que, et avec l'équité des chances, j'ai aussi la chance de pouvoir y réussir sans forcément avoir un bras long, comme l'a dit le ministre.
Richard Meda.
Je suis très fier de ces propos qui ont été avancés ce matin. Vraiment. C'est un plaisir pour nous et un honneur.
Selon le gouvernement, le budget pour l'organisation des concours s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. L'innovation majeure cette année, c'est le recrutement par concours des chauffeurs et des agents de liaison. Pendant une douzaine de jours, les candidats vont participer à 89 concours. L'État étant le plus gros employeur du pays, ceux qui n'auront pas réussi à ce concours vont devoir aller chercher ailleurs. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Alors que les fortes pluies saisonnières s'abattent sur le Soudan, les réfugiés et les personnes déplacées à l'intérieur du pays continuent de subir les conséquences d'une situation humanitaire très grave après plus d'un an d'une guerre meurtrière qui a conduit à la tragédie de la famine, le tout aggravé par les effets croissants du changement climatique. Les fortes pluies et les inondations ont déjà touché des dizaines de milliers de personnes à travers le Soudan, provoquant de nouveaux déplacements, des blessures et des décès. Alexandrine Holognon.
Plus de 11 000 personnes, dont des réfugiés accueillis dans le pays et des communautés locales dans l'est de l'état de Kassala, ont été touchées par de graves inondations et de fortes pluies au cours des deux dernières semaines. Parmi ces personnes figurent de nombreuses familles récemment arrivées après avoir fui les violences dans l'état de Sennar et qui se sont réfugiées dans 5 sites de rassemblement et centres d'accueil. Plus de 400 abris ont également été endommagés dans le camp de réfugiés de Chagarad, laissant des personnes déjà vulnérables dans le dénuement. Ashraf Zakaria Ibrahim, déplacé interne soudanais.
Le même jour de notre arrivée, il a plu abondamment. La souffrance était immense. C'était la deuxième souffrance après la guerre. Toutes les tentes étaient inondées, pas à l'intérieur, mais sous le plastique.
Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, et ses partenaires sont sur le terrain et font tout leur possible pour aider les plus vulnérables. En collaboration avec les autorités de l'État, un nouveau terrain a été identifié où des tentes sont installées pour accueillir les familles sinistrées. Le nouveau site devrait accueillir quelques 800 familles nouvellement déplacées en raison des inondations. Le HCR a déjà commencé à ériger des abris d'urgence avec quelques 400 tentes installées à ce jour. Malgré les pluies incessantes, au moins 200 familles ont été relogées. Bichenge Malaika Balikwisha est chef du bureau auxiliaire de Kassala du HCR.
Les besoins sont encore très très importants. Les personnes touchées par les inondations ont toujours besoin d'abri, de services de santé, d'accès à l'eau, d'hygiène et d'assainissement. Elles ont toujours besoin d'accès à l'éducation, de protection des enfants, mais aussi d'accès à des moyens de subsistance.
Les inondations dans la région du Darfour ont également un impact sur la capacité déjà limitée des agences d'aide à atteindre les personnes dans le besoin. Les besoins humanitaires atteignent des proportions épiques dans la région, car des centaines de milliers de civils sont toujours en danger et la famine a récemment été confirmée dans un site de déplacement. Marwa Moussa Mohamed, déplacée interne soudanaise.
J'espère que la guerre s'arrêtera, que la paix se répandra et que les gens pourront rentrer chez eux. Je souhaite vraiment que les gens puissent rentrer chez eux en toute sécurité, car rien ne peut remplacer le confort d'un foyer. Peu importe ce que font les organisations, rien n'est comparable au fait d'être chez soi.
Depuis la mi-avril, les fortes précipitations liées à El Niño ont entraîné des phénomènes météorologiques extrêmes en Afrique de l'Est qui frappent les communautés de réfugiés et de déplacés. Le HCR a lancé un appel régional de près de 40 millions de dollars pour aider et protéger 5,6 millions de réfugiés, de rapatriés, de personnes déplacées et de communautés locales au Burundi, en Éthiopie, en Somalie, au Rwanda, au Sud-Soudan et au Soudan.
La campagne présidentielle américaine est suivie de près en Ukraine, car son issue pourrait avoir un impact significatif sur la sécurité régionale, la politique étrangère des États-Unis, le soutien de l'OTAN et surtout l'aide à l'Ukraine et les relations avec la Russie. Miroslava Gongadze de la VOA nous en dit plus. Le récit est d'Eric Manirakiza.
Bienvenue, c'est un plaisir de vous voir. Comment allez-vous?
La vice-présidente Kamala Harris a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à 6 reprises, la dernière fois en juin lors du sommet pour la paix en Ukraine en Suisse. L'invasion massive de l'Ukraine par la Russie, qui a commencé un an après le début de l'administration Biden-Harris, a façonné la politique étrangère des États-Unis. Selon Ivana Klimpouch-Chintzandze, membre du Parlement ukrainien, le leadership et le soutien des États-Unis ont été cruciaux pour aider l'Ukraine à résister à l'agression russe.
Nous comprenons malheureusement que les politiques actuelles de livraison d'armes à l'Ukraine, qui sont trop limitées et tardives, ainsi que cette gestion de l'escalade, nécessitent des changements.
Selon elle, le soutien bipartisan des États-Unis est essentiel pour l'Ukraine et Kiev se prépare à travailler avec toute administration pour assurer la continuité de l'aide.
Je pense qu'il est extrêmement important de passer d'une politique de soutien indéfinie à l'Ukraine à une stratégie visant à assurer la victoire effective de l'Ukraine.
Les États-Unis restent le premier fournisseur d'aide à l'Ukraine. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis ont alloué plus de 81 milliards de dollars. La politique de soutien à l'Ukraine de l'administration Biden-Harris a été historique, estime l'analyste Mykola Davidiuk.
Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est le plus important soutien jamais apporté à des États européens. Ils ont ainsi marqué l'histoire.
Le politologue ukrainien Yevhen Libovsky souligne que le montant de l'aide est crucial, mais comprendre les intentions de la Russie et le rôle stratégique de l'Ukraine l'est tout autant.
La plus grande erreur de l'administration Biden a été de ne pas comprendre que la défaite de la Russie est essentielle pour apaiser les tensions internationales. Ainsi, en cherchant à éviter une troisième guerre mondiale, l'administration Biden a commis des erreurs qui, au contraire, la rendent plus probable.
Il note toutefois que le soutien des républicains à l'Ukraine n'est pas garanti. L'ancien président Donald Trump a exprimé des inquiétudes concernant la corruption dans le pays et a remis en question les alliances militaires.
L'Ukraine se retrouve dans une situation délicate, car une potentielle administration Trump menace de couper totalement l'aide à l'Ukraine et envisage soit de se retirer de l'OTAN, soit d'en diminuer l'importance.
Que ce soit un républicain ou un démocrate qui remporte la présidence en novembre, la guerre de la Russie en Ukraine et la garantie de la paix en Europe resteront des préoccupations majeures pour nos prochains dirigeants américains.
L'ancien président Donald Trump a annoncé que l'un des sites web de sa campagne a été piraté. Alors que les détails ne sont pas encore connus, son vice-président, J.D. Vance, a accordé plusieurs interviews hier dimanche dans lesquelles il a attaqué le ticket présidentiel démocrate. Pendant ce temps, la vice-présidente Kamala Harris et son colistier Tim Walz continuent de poursuivre leur campagne en mettant l'accent sur l'économie. Le reportage de Veronica Baderas Iglesias, le récit est signé plutôt Lionel Gaïma.
L'information selon laquelle la campagne de Trump a été piratée continue de faire les gros titres quelques heures après que le candidat républicain Donald Trump en a parlé pour la première fois samedi sur sa plateforme des médias sociaux Truth. Le message est le suivant. Nous venons d'être informés par Microsoft Corporation que l'un de nombreux sites web a été piraté par le gouvernement iranien. Les autorités iraniennes ont rejeté ces accusations. Les présumés documents piratés contiendraient des informations sur le candidat républicain à la vice-présidence J.D. Vance. Il est apparu dimanche dans plusieurs émissions, mais les questions ont porté essentiellement sur la course à la présidence. Lors de l'émission This Week, diffusée sur ABC, le sénateur de l'Ohio a balayé les critiques concernant les déclarations pro-famille controversées qu'il a faites dans le passé et a réorienté l'attention vers les politiques du ticket présidentiel démocrate.
Pourquoi parlons-nous de l'inflation? Pourquoi ne parlons-nous pas du fait que les produits d'épicerie sont inabordables à cause de la politique de Kamala Harris?
L'économie a été aussi un sujet des discussions lors d'un meeting de la candidate démocrate Kamala Harris à Las Vegas, dans le Nevada.
Je promets à tout le monde que lorsque je serai présidente, nous continuerons à nous battre pour les familles de travailleurs américains. Notamment en augmentant le salaire minimum et en supprimant les taxes sur les pourboires pour les travailleurs du secteur des services et de l'hôtellerie.
Trump a fait un engagement similaire dans le passé et a accusé Harris d'avoir volé sa politique, pas d'impôt sur les pourboires. Même si les appels se multiplient pour que Harris donne plus de détails sur les projets économiques, la dynamique de la campagne est indéniable, a déclaré la sénatrice démocrate Amy Klobuchar sur la chaîne ABC.
Elle a enflammé le pays, de Philadelphie au cœur du Wisconsin, en passant par ce meeting de plus de 15 000 personnes en Arizona. Les gens veulent aller de l'avant.
Harris va rentrer à Washington après avoir participé à un événement politique à San Francisco. Elle et le président Joe Biden devraient faire une apparition publique ensemble jeudi dans le Maryland. Donald Trump doit s'exprimer sur l'économie mercredi à Asheville, en Caroline du Nord.
I can't.
Voilà qui conclut notre édition du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, à la présentation Nani Salani, à la réalisation Michel Joseph. Restez avec nous pour d'autres reportages et analyses tout au long de la journée. Pour plus de détails et de nouvelles en continu, visitez notre site web à voaafrique.com et suivez nos pages Facebook, YouTube, X et Instagram. La VOA Par Ma Voix vous souhaite une excellente soirée.